Le journal Pierre Veille. Bonjour Pierre.
Bonjour Ali Badou, bonjour à tous. Les ultimes arbitrages de l'exécutif sur la réforme des retraites, consultation à Matignon cet après-midi, réunion à l'Élysée ce soir. On fait le point dans un instant avec Maxence Lambrecq sur France Inter. Philippe Martinez, le numéro 1 de la CGT, dit que c'est le gouvernement qui choisit la confrontation et l'affrontement. Dans les transports, les syndicats appellent à amplifier les grèves. On craint une grande pagaille sur les quais de métro ou dans les gares demain. Mayotte, dans l'océan Indien, placée en alerte rouge quelques heures avant l'arrivée d'un cyclone. Les habitants doivent se mettre à l'abri et ne sortir en aucun cas. Nous écouterons le préfet du département. Près de Bordeaux, 16 personnes arrêtées hier et placées en garde à vue. Dans leur appartement, les policiers ont découvert un atelier de confection de cocktails Molotov. Les expatriés algériens en France votent dans les consulats pour l'élection présidentielle de jeudi prochain. Tensions et manifestations pour refuser ce scrutin devant les consulats. Les candidats en lice sont tous proches de l'ancien pouvoir. Le Téléthon, plus de 74 millions d'euros de promesses de dons. C'est mieux que l'année dernière. Nous serons en ligne avec Laurence Thiénot-Hermant, la présidente de l'AFM Téléthon. Et puis à la fin de ce journal, la solidarité et la générosité encore avec une manifestation en faveur des sans-abri hier soir à New York avec une star du cinéma.
France Inter.
Les prochains jours seront décisifs dans le bras de fer entre le gouvernement et les syndicats sur la réforme des retraites. Demain, probable journée noire dans les transports. On y revient dans un instant. Demain après-midi, les syndicats seront reçus par Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire aux retraites, et Agnès Buzyn, la ministre de la Santé. Ils présenteront leurs conclusions de la concertation menée depuis de longs mois. Mardi, à l'appel des syndicats, nouvelle journée de grève et de manifestation. Mercredi, le Premier ministre Édouard Philippe présentera le détail de la réforme. Dans le JDD ce matin, il se dit déterminé à mener jusqu'à son terme ce projet de système universel de retraite par points voulu par Emmanuel Macron. Si on ne fait pas une réforme profonde, sérieuse, progressive aujourd'hui, quelqu'un d'autre en fera une demain brutale, vraiment brutale, dit le chef du gouvernement. En ce dimanche, l'exécutif s'active pour sauver cette réforme et rendre les derniers arbitrages. Maxence Lambrecq, il y a des réunions cet après-midi à Matignon et ce soir à l'Élysée.
Emmanuel Macron à la manœuvre pour trouver la bonne piste d'atterrissage avec en tête la colère des cheminots et l'inquiétude des enseignants. Quelles concessions va-t-il accepter? Comment peut-il renouer avec les syndicats réformistes? Rien ne filtre des échanges du week-end et peu à peu, la majorité s'impatiente. Ce matin, la ministre Emmanuelle Wargon reconnaissait elle-même qu'en ne produisant toujours pas de simulateur de la réforme, on laisse finalement s'exprimer ceux qui disent que tout le monde va y perdre et c'est faux. Le Premier ministre a conscience que la pression monte. La réforme des retraites doit être une réforme sociétale et non budgétaire, alerte le député marcheur Jean-François Cesarini. Des premiers signaux seront envoyés demain après-midi à l'issue de la rencontre avec les syndicats. « Je ne crois pas aux annonces magiques », tempère Édouard Philippe dans le JDD. Sous-entendu, la sortie de crise ne se fera pas en un jour. À l'Élysée ce soir, le président va donner le ton, définir son « en même temps » aux côtés du Premier ministre et des ministres concernés. Mais la presse n'est pas conviée dans la cour, l'Élysée ne distille aucune information et laisse Matignon en première ligne. Emmanuel Macron commande, mais ne montera au front que si la crise perdure.
Maxence Lambrecq, Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, était l'invité de Questions politiques sur France Inter entre midi et 13h avec Ali Badou. Philippe Martinez maintient son refus de cette réforme et demande son retrait. Il dénonce l'attitude du gouvernement.
C'est le gouvernement, contrairement à ce qu'il dit, qui choisit la confrontation et l'affrontement.
Il n'y a pas de compromis possible.
Mais c'est pas une question de compromis. C'est quand vous avez une réforme qui est autant repoussée par l'opinion publique en général et par les salariés en particulier. Soit vous écoutez, on est dans l'acte 2 ou pas du quinquennat, enfin vous l'avez entendu, le président de la République, faut écouter, faut se concerter. Et là, j'allais dire chasser le naturel, il revient au galop. On montre les muscles, on dit on lâchera rien. Qu'est-ce que c'est que cette façon d'écouter le peuple et d'écouter tout ce qui se passe d'ailleurs dans le pays?
Parce que vous non plus, vous ne lâcherez rien.
Mais je suis en train de vous dire que depuis 2 ans, on a expliqué, on a proposé. Pourquoi, à chaque fois qu'il y a de telles discussions, ça serait le projet d'un gouvernement ou du patronat qui serait à amender ou à changer 3 ou 4 virgules? Pourquoi on ne dit pas, finalement, on va peut-être regarder Qu'est-ce qui ne va pas dans notre système actuel pour l'améliorer ?
Philippe Martinez sur France Inter et Elisabeth Borne, la ministre des Transports, était il y a quelques instants l'invitée de LCI. Elle critique l'attitude de la CGT.
Je pense que la CGT, depuis le début, elle n'est pas dans les discussions. Donc je ne pense pas que ce soit avec la CGT qu'on trouvera le chemin de la sortie de ce conflit.
Bah donc vous excluez la CGT de toute...
Ça n'est pas moi. Tout le monde est toujours le bienvenu à la table des négociations et des discussions, mais quand certains ne veulent pas discuter, j'en prends acte. Vous savez, on est sur une réforme très importante, et je ne pense pas que ça se conçoive en termes de rapport de force. Je pense qu'on a amené cette réforme des retraites pour assurer tous les jeunes qui aujourd'hui ne croient pas qu'ils auront une retraite, pour mettre en place un système qui tient compte du fait que le monde a changé depuis 1945, qu'on ne fait plus toute sa carrière au sein d'une entreprise, un système plus juste qui répond aussi à des graves inégalités. Et donc voilà, il faut évidemment entendre les inquiétudes et rassurer les Français sur le fait que cette réforme, ça se passera bien et qu'on saura gérer les transitions pour qu'il n'y ait pas de brutalité dans la réforme.
La ministre des Transports, Elisabeth Borne, le numéro 1 de Force Ouvrière, Yves Verrier, a souhaité sur BFM TV ce matin l'abandon, je cite, de cette mauvaise idée qu'est le projet de réforme des retraites du gouvernement et qu'on revienne au point de départ sans préalable. Fin de citation. Dans l'immédiat, la grève continue dans les transports, à la RATP et à la SNCF. Les trois premiers syndicats de cheminots, CGT, UNSA et Sudrail, appellent à amplifier la grève à partir de demain. Kevin Dufraîche, bonjour.
Bonjour.
Quelles sont les prévisions, Kevin, les prévisions de trafic pour aujourd'hui et surtout demain qui s'annoncent très difficiles dans les gares et stations franciliennes?
Ah oui, c'est à Paris que c'est toujours le plus compliqué aujourd'hui. Toutes les lignes de métro sont fermées, sauf la 1 et la 14 qui sont automatisées, indique la RATP. Côté SNCF, 15% des trains de banlieue seulement circulent, un TGV sur 6, un intercité sur 10 et 2 TER sur 10. Alors, nous sommes dimanche, le nombre de voyageurs est limiter les conséquences moindres, mais demain, pour la reprise du travail, ça ne s'annonce pas mieux. La SNCF donnera ses prévisions détaillées ce soir à 17h, mais elle annonce d'ores et déjà un trafic aussi perturbé qu'en cette fin de semaine. Vendredi, par exemple, il n'y avait qu'un TGV sur 10 en circulation, 30% du trafic TER pour les intercités, un seul aller-retour Paris-Clermont, aucun train Paris-Cherbourg, ni Nantes-Bordeaux. Et concernant l'Île-de-France, la SNCF demande aux usagers des trains de banlieue de ne même pas essayer de se rendre en gare demain pour éviter la saturation.
Kevin Dufraîche, merci. Le compteur de la 33e édition du Téléthon a atteint 74 600 000 euros, en hausse par rapport à l'édition 2018 avec 69 millions d'euros. Les événements avaient bousculé le Téléthon 2018. En ligne avec nous ce matin, Laurence Thiénot-Hermin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente de l'Association française contre les myopathies, l'AFM Téléthon. Que pensez-vous de ce bilan, soit plus de 74 millions de promesses de dons? Est-ce que vous pensez que ces promesses vont se réaliser concrètement?
Oui, on pense bien sûr que les promesses vont se réaliser concrètement parce que les Français sont toujours au rendez-vous de la générosité. Bien souvent, ils concrétisent au-delà même de ce qu'ils ont promis. Et il ne faut pas oublier que le 36-37 est encore ouvert dès maintenant. Pour ceux qui ne l'auraient pas fait ce don pendant ces 30 heures, je pense que les uns et les autres ont vu la mobilisation sur le terrain. Il y avait une mobilisation extraordinaire. Dans la moindre petite ville, dans la moindre petite commune, il y avait aussi beaucoup d'émotions pendant ces 30 heures de Téléthon et surtout énormément de victoires que nous avons partagées avec toute la population. Des victoires qui ont été possibles grâce à leur mobilisation depuis 30 ans. Aujourd'hui, les premiers médicaments arrivent et pour construire les futures nouvelles victoires, on a besoin que tout soit encore au rendez-vous et appelle le 36-37.
Je rappelle donc le 36-37 toujours à votre disposition et aussi sur www.téléthon.fr. Vous parlez de ces nouvelles victoires espérées face à plusieurs maladies grâce à la thérapie génique. Plus précisément, quelles sont ces victoires que vous espérez là dans les prochains mois et les prochaines années grâce à tous ces dons?
Alors déjà, nous avons vraiment montré, en effet, pendant ces 30 heures de Téléthon, que la thérapie génique permettait aujourd'hui d'apporter des solutions, des thérapeutiques, des traitements à des maladies rares comme des maladies rares du sang. Toutes ces victoires ont des visages et on a vu les visages et les témoignages pendant les 30 heures. Maladies rares du sang comme la bêta-thalassémie, des déficits immunitaires, des maladies rares de la vision également, avec des témoins comme Julien qui a témoigné pendant ce Téléthon. Et puis également, et ça c'est je dirais pour la présidente que je suis, la maman que je suis, la victoire peut-être la plus forte, la plus emblématique, qui nous charge d'émotions, c'est la thérapie génique dans l'amyotrophie spinale de type 1. Parce que c'est une maladie qui condamne les bébés avant l'âge de 18 mois. Et aujourd'hui, grâce à des recherches qui ont été aussi largement impulsées par les fonds du Téléthon, la découverte du gène de l'amyotrophie spinale, et puis les premiers traitements efficaces arrivent en thérapie génique dans cette maladie, c'est extraordinaire.
Merci Laurence Thiénot-Herman, présidente de l'Association française contre les myopathies AFM Téléthon, d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle donc ces promesses de dons pour l'édition du Téléthon 2019, plus de 74 millions d'euros. On peut toujours faire des dons en téléphonant au 36 37 ou alors sur internet www.téléthon.fr. Vigilance rouge, forte houle et forte pluie. Mayotte voit approcher le cyclone Belna qui s'est élargi et devrait toucher l'archipel français dans l'océan Indien en fin de journée. Hier soir, le préfet appelait déjà la population à la plus grande vigilance. Le préfet, c'est Jean-François Colombet. On l'écoute avec nos confrères de Mayotte Première.
Nous avons des locaux scolaires qui seront ouverts pour mettre les populations à l'abri. J'ai des collègues sous-préfets qui seront dispersés sur le territoire avec des gendarmes, avec des forces de déblaiement, avec des moyens d'intervention pour rétablir la circulation et les choses normales après l'événement. Le dispositif est prêt. Ça passera peut-être à côté, mais ça peut passer sur Mayotte. Et si ça passe sur Mayotte, ce sera terrible. Préparons-nous. Écoutons les directives, mettons-nous à l'abri. Il faut être extrêmement attentif à ce que nous allons dire sur ce sujet.
Alerte rouge donc à Mayotte avant l'arrivée de ce cyclone. En Gironde, 16 personnes ont été placées en garde à vue après la découverte hier dans un appartement situé au Bouscat de produits chimiques et de clous susceptibles d'être utilisés pour commettre des violences lors de manifestations. Arrestation quelques heures avant une manifestation contre la précarité et le chômage qui s'est déroulée hier à Bordeaux. Sur place, Mélanie Juvet de France Bleu Gironde.
Et les policiers, appuyés par les hommes de la BRI, la brigade de recherche et d'intervention, ont fait irruption par surprise dans cet appartement loué pour le week-end via la plateforme Airbnb. À l'intérieur, ils découvrent un petit arsenal, des produits chimiques comme de l'acide, des liquides non identifiés ou encore des sacs de bouchons cloutés. Autant d'objets pouvant servir à élaborer des projectiles contre les forces de l'ordre. Les 16 occupants, des hommes et des femmes âgés de 25 à 45 ans, sont originaires de la Gironde et d'autres régions. Tous ont été placés en garde à vue et n'ont donc pas pu participer à la manifestation de samedi après-midi. Elle a réuni un millier de personnes à Bordeaux. Une enquête pour association de malfaiteurs a été ouverte, indique la police bordelaise. Et les perquisitions se poursuivent, notamment au domicile respectif des suspects.
Le vote des Algériens a débuté hier en France pour l'élection présidentielle qui se déroulera, elle, jeudi en Algérie. Les Algériens de France votent dans les consulats. Ils devront choisir entre 5 candidats qui font tous partie du système de l'ancien président Bouteflika. L'abstention s'annonce massive en Algérie. Chaque semaine, d'imposantes manifestations dénoncent ce scrutin sans enjeu. Tension aussi devant les consulats d'Algérie en France. Ceux qui viennent voter sont parfois copieusement insulté. La colère d'un manifestant hostile à ce scrutin devant le consulat d'Algérie à Paris, au micro de Nathanaël Charbonnier.
On a déjà choisi le président. Soit Benflis, le salopard de mon pays, de mon village, et soit Mehoubi. Et ce sont deux produits du régime, du système. C'est pour servir le système. Ils ont vidé l'Algérie de ses substances et de ses richesses premières, ils les ont vendues, les ont placées au Qatar, aux Émirats Arabes Unis, ils les ont placées en Europe occidentale, et voilà. Il n'y a plus rien. Nous, on se bat pour avoir un hôpital digne de son nom, des médecins dignes de son nom, pour se soigner et avoir la tête libre et être en liberté. Et cette liberté n'existe pas. Nous nous battons pour la liberté et pour les générations. J'ai 73 ans, je m'en fous de moi. Chaque jour, j'avance vers la mort. Mais nos enfants, ils ne vivront pas ce cauchemar.
Direction maintenant la péninsule coréenne. La Corée du Nord annonce avoir mené un test très important depuis sa base de lancement de fusée de Soe. Une annonce laconique, mystérieuse, mais significative de l'impasse dans les négociations actuelles sur le nucléaire entre la Corée du Nord et les États-Unis. Explication à Séoul, en Corée du Sud, avec notre correspondant Frédéric Ojardias.
La Corée du Nord affirme que ce test a eu lieu samedi après-midi et qu'il aura pour effet de changer son statut stratégique. Si le régime n'en dit pas plus, cela fait plusieurs jours que les analystes, sur la base de photos satellites, estimaient qu'un essai de moteur de fusée au sol était en préparation. Ce test de moteur est le prélude probable à un futur tir d'engin capable de mettre en orbite un satellite, des lancements considérés comme des essais déguisés de missiles intercontinentaux. Le régime avait pourtant promis l'an dernier de démanteler ce pas de tir de Soe, mais en mars de cette année, alors que les négociations nucléaires avec les États-Unis s'enlisaient, des travaux de reconstruction avaient été observés sur le site. L'essai annoncé ce matin peut donc être vu comme une provocation destinée à accroître la pression sur les États-Unis. Pyongyang exige un accord sur le nucléaire et un allègement des sanctions d'ici la fin de l'année, mais Washington ne montre aucune intention de céder à cet ultimatum. Séoul, Frédéric Ojardias, RFI pour France Inter.
Le Sud-Africain Mike Horn et son compagnon d'aventure, le Norvégien Børge Ousland, en difficulté alors qu'ils effectuaient une expédition en Arctique, ont été récupérés sains et saufs. Ils ont frôlé la mort à cause de la faim et de l'épuisement. Eh bien, ce dimanche, à Maya Cazenav, ils ont rejoint le Lance, un bateau envoyé pour les secourir.
Les deux baroudeurs de 53 et 57 ans sont montés à bord du Lens, un navire résistant à la glace cette nuit. On ignore pour l'instant leur état de santé. Annika Horn, la fille de l'explorateur, a affirmé il y a quelques jours que son père souffrait d'extrême fatigue et de gelure. Désormais sauvé, il va pouvoir se reposer. Les deux hommes s'étaient lancés dans la traversée de l'océan Arctique à ski il y a 3 mois. Ils tiraient chacun un traîneau de plus de 100 kilos plein de vivres derrière eux par des températures allant de moins 2 à moins 45 degrés. Tout s'est brusquement gâté quand Mike Horn est tombé dans l'eau glacée fin novembre. La banquise arctique, instable et fragile à cause du réchauffement climatique, les a aussi obligés à changer plusieurs fois d'itinéraire, ce qui a rallongé leur parcours. Les rations de nourriture sont venues à manquer. À l'origine, ils envisageaient de terminer leur traversée à la mi-novembre. Ils auront finalement passé 85 jours dans la nuit polaire.
Amaya Cazenav, dernière page de ce journal avec cette opération de solidarité, de générosité à l'échelle du globe pour sensibiliser au sort des sans-abri. The World's Big Sleep Out, c'était cette nuit dans une cinquantaine de villes à travers le monde. Londres, Brisbane, New York, Los Angeles, des dizaines de milliers de personnes ont dormi dehors en solidarité avec les plus démunis. Reportage de Loïc Loury à New York où l'événement se déroulait à Times Square en présence de l'acteur Will Smith venu soutenir l'initiative.
Une histoire avant d'aller dormir face aux écrans géants de Times Square. Le conteur hier soir s'appelait Will Smith. Face à des centaines de personnes sur le point de passer la nuit dehors, l'acteur a improvisé sur le générique du Prince de Bel-Air.
Il y avait ce petit garçon dans une ville très lointaine, West Philadelphie.
Le thermomètre affiche moins de 0 degré, les volontaires ont froid, mais ils sont là pour ça, disent-ils, la solidarité avec les sans-abri. Lavinia est venue exprès d'Édimbourg où l'initiative est née. Elle y a participé il y a 2 ans.
Cette nuit-là, un sans-abri est mort. C'était vraiment horrible. Il y a 2 ans à Édimbourg, il faisait moins 6 et ce n'était qu'une seule nuit, mais j'ai trouvé ça affreux.
Gina, elle n'a pas la même expérience et elle est un peu anxieuse.
Oh, un petit peu, oui. J'ai mis plusieurs couches, 3 pantalons, 2 paires de chaussettes, 4 t-shirts, 2 bonnets. Je ne sais pas comment on va dormir avec toutes ces lumières. Oh, c'est plutôt intéressant.
Une expérience qui, bien sûr, a ses limites. Les sans-abri new-yorkais ne sont pas aussi bien couverts. Ils sont plus de 60 000, un chiffre inédit depuis la Grande Dépression. New York, Loïc Loury, France Inter.
To sit on my throne. Thank you guys very much.
Thank you, Will Smith. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous avec l'information à 14h. Le Flash, Alexis de Meyer.